Écoutez, écoutez bien.
Bonjour,
c'est Bruit de fond avec Thomas Capron. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, Gérard nous reçoit chez lui à Sotteville-lès-Rouen. Né en 1936, il grandit pendant la Deuxième Guerre mondiale sur les hauts de la cité cheminote, dans un milieu et une famille ouvrière attachée à ses valeurs humanistes. Il devient agent EDF quelques années après la nationalisation de l'entreprise et se syndique à l'âge de 17 ans. En 1954, la guerre d'Algérie éclate et il est appelé 3 ans plus tard à l'âge de 21 ans. Gérard nous ouvre sa boîte de souvenirs.
Ça, c'est une boîte de familiale où j'ai mis toutes ces petits souvenirs.
En fer blanc.
Je l'ai récupéré quand je suis arrivé dans le civil. Et puis là, il y a les différents grades que j'ai pompeusement portés, qui étaient cousus sur les manches. Ça, c'est caporal-chef du 43e régiment d'infanterie. Ça, c'est sergent.
Donc, un chevron doré.
Exactement. Et avant, j'étais caporal. Et donc, caporal, c'est 2 rouges seulement.
Bon. Et c'est marqué 43 parce
que... Et c'est toujours le 43e régiment d'infanterie de Lille, qui était lui qui avait, à l'époque, les régiments étaient déplacés en Afrique du Nord. J'ai fait mes classes, moi, à Lille.
Et c'était en quelle...
J'ai été incorporé en septembre 56.
Et service national classique.
Service national tout à fait classique, avec des périodes où on nous a, pour certains, sortis du lot pour nous faire passer ce qu'on appelait le peloton d'élèves gradés, pour sortir avec des habilitations pouvant aller jusqu'au grade de sergent.
Ah oui. C'était. Et t'avais choisi, toi, d'aller au Maroc ?
Non, du tout. Du tout. Parce que moi, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais jamais fait de service militaire. Parce que j'avais une conception de l'armée et de la guerre. C'est toujours les mêmes qui la font et c'est toujours les mêmes qui meurent. Et puis c'est toujours pour des questions de profit. Et puis voilà quoi. Mais enfin, donc j'ai participé à beaucoup de manifestations à Rouen. Il y a eu des manifestations avant que je parte.
Ah, tu manifestais avant?
Manifestais avant. Est-ce que je reproche, moi, à la population française bien pensante de l'époque, c'est de ne pas être descendu dans la rue? Parce que si nous avions été 2 millions à manifester à Paris, la guerre d'Algérie n'aurait jamais eu lieu. Il aurait fallu qu'ils fassent autrement. Les citoyens démocrates auraient opposé leur nombre, mais pas leurs armes. Parce que c'était logique qu'on allait, tôt ou tard, être obligé de partir. Il y avait la Tunisie, c'est déjà fait, le Maroc et l'Algérie qui se trouvaient là au milieu. Mais c'est toujours pareil, il y a toujours des problèmes économiques, politico-économiques très très importants, quoi. Il fallait à tout prix que... Hein. Alors donc en 54, on a manifesté avec entre autres les gens qui étaient rappelés, parce qu'il y avait des... Bon, moi j'étais fiancé, mais j'étais célibataire. Mais il y en a qui étaient mariés, et qu'on a rappelés. Pour... on sait jamais, hein, pour... À cette ville, il y a quand même des... Il y a des jeunes gars qui sont morts pendant la guerre d'Algérie, hein, au cimetière de cette ville. Mais moi, je pense qu'on aurait pu éviter peut-être les, je sais pas, ces 45 000 morts, plus les pauvres types qui sont revenus à moitié fous de ça, quoi. Hein.
Donc à l'époque, t'as lutté contre cette guerre-là. C'était pas facile, ça.
Non, dans les années 54, il n'aurait surtout pas fallu que je me fasse pincer. C'est si je m'étais fait pincer au moment où on manifestait, sur mon livret militaire, ça aurait été mentionné, puis j'aurais été certainement dans des situations en Algérie assez périlleuses. Donc je suis parti au Maroc en avril 57, où le bataillon de notre régiment, parce que un régiment est composé de bataillons, le bataillon de notre régiment était affecté à un service de renseignement et de surveillance le long de la frontière marocaine avec l'Algérie, c'est-à-dire de Berkane Oujda au nord. À Bouenane, au sud, face à Colombéchar. On a commencé à Oujda, on a fait après Beni Oukil, Guenfouda, Bouenane, et on est remonté par Ouarzazate, Midel, Tazrou, Ifrane, El Ajeb, et puis on a fini à Meknès. C'était avec tout embarqué à dos de mulet. Hein. Aucune voiture, parce que là où nous passions, c'était le Moyen Atlas, c'était le Djebel, c'était vraiment loin de tout, quoi. C'était aride, rocailleux. Le jour, il fait très chaud, la nuit, il fait très froid. Du rocher et du sable, puisque c'est avec ces variations de température, les roches se cassent. Et puisqu'une fois, nous sommes tombés dans une tempête de neige, je peux te dire que c'était très spécial.
Vous aviez comme pas trop d'informations sur la situation, un peu perdu dans les montagnes.
Du tout. Pas d'informations. L'information militaire. Pas de poste de radio, pas de journaux d'une presse qui aurait pu nous. Il y avait la radio du bled. Mais dans la radio du bled, on apprenait qu'on avait tué 45 félagas dans telle embuscade, qu'on avait fait ceci, qu'on avait fait cela. Hein. Parce que c'était le flou le plus absolu. On était un peu en nomade, on se déplaçait, on surveillait soi-disant, il y avait des mouvements de troupes, donc on pouvait, quand on voyait, parce qu'il y avait beaucoup de gens du FLN qui passaient de l'Algérie au Maroc pour revenir se ressourcer ou se réarmer ou des choses comme ça, donc ça, on était censé pouvoir les voir.
Ah oui. Hein. Et tu les voyais, toi?
Nous, on les voyait, bien sûr qu'on les voyait, parce que c'était des gens qui étaient transformés en bergers, en nomades, en choses comme ça. Mais quand on voit 20 Mehari passer, on ne sait pas si ces gens-là, puisqu'on n'avait pas le droit de les fouiller, on n'avait pas le droit de les intercepter, on faisait que de visu, que de constater. Et quand on faisait souvent des opérations le long de la frontière, on était toujours de loin accompagnés par de l'armée marocaine qui nous surveillait. C'est-à-dire que s'il y avait eu le moindre chose, sur le plan diplomatique, ça aurait posé certainement des gros problèmes, quoi. Hein. C'était une situation un peu le cul entre deux chaises, excusez-moi de l'expression, quoi, parce que c'est... On savait pas si... on pouvait rien faire tout en faisant quelque chose, tout en le faisant pas, quoi.
Donc, tu regardais le paysage, quoi.
Ouais, ouais, on était censé être des informateurs de la situation. Ça, c'était les missions qu'on nous donnait à nous. Et l'avantage que j'ai eu quand même, parce qu'il faut le souligner, dans ma section, moi, j'ai eu comme chef de section un adjudant-chef. Et c'était un homme qui avait fait la guerre d'Indochine. Petit bonhomme, bien gentil, bien conscient que lui arrivait en fin de carrière militaire. Et on avait un slogan, on disait « on part à 24 et on rentre à 24 ». Il n'était pas question de faire du zèle, si on avait été attaqué, c'est sûr qu'on aurait répondu, parce que quand on est sur le terrain, c'est absurde de dire « moi je suis pas pour la guerre, mais celui qui est en face, il défend sa peau aussi ». Et on partait avec cette mentalité-là. Donc c'était très réconfortant. On était armés jusqu'aux dents, ouais. Tout était transporté sur le dos des mules, mais on s'en est jamais servi.
La fièvre qui a saisi la population algérienne ne devait pas se démentir. C'est au milieu d'une prodigieuse exaltation collective que l'homme qui porte aujourd'hui les destinées françaises a lancé son message à une foule dont l'image seule peut dire le nombre et la voix seule la ferveur.
Je vous ai compris! Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouvert en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Des Français à part entière. Moi, De Gaulle, j'ouvre la porte de la réconciliation.
En mai 58,
à
Agbou. Agbou, c'était notre centre, notre PC militaire. On était d'opération une fois la semaine. Sinon, on était en ouverture de route, c'est-à-dire que tous les convois qui se déplaçaient, c'était accompagné par des AFTRAC, pro-mitrailleuses, EBR, enfin tout ça, et par des soldats dans des camions pour protéger. Alors parfois, c'était... ou un transport alimentaire, ou même parfois des civils qui allaient d'un point à un autre, ils étaient accompagnés par des militaires, parce qu'ils pouvaient plus, c'était fini, ils pouvaient plus se rendre tout seuls faire des déplacements. Après, on était de marché. C'est le marché, il fallait le surveiller, il fallait, parce que ce qu'on a fait aussi, quand on était là-bas, à côté d'Agbou, on a construit des maisons en agglo couvertes en tôle, parce qu'on voulait pas laisser les Algériens dans le Djebel, pour éviter qu'ils servent le FLN. C'est le FLN, quand ils arrivaient dans un village, ils étaient bien accueillis, quoi. Pour eux, c'était des relais, quoi, pour eux, hein. Et pour éviter ça, on voulait vider les villages. Donc, on a fait des baraquements,
oui,
tout simplement, mais qui étaient invivables, parce qu'avec couvertes en tôle, avec le soleil, il y avait des températures là-dessous. Et puis alors, on prenait les gens, on les installait là dans la journée. On allait se coucher. Le lendemain, quand on revenait, tout le monde était parti, quoi. Hein, ça a été une idée l'idée d'un politique ou d'un préfet du coin ou je ne sais quoi, mais, et puis c'est tout, quoi. Mais on n'était pas là d'une manière disciplinaire. Parce qu'il y avait des endroits en Algérie, sur le plan disciplinaire, qui étaient certainement pires, qui étaient durs, quoi. Bien sûr. Dans notre régiment, il y a eu des compagnies qui ont tué des gens, et puis c'était la 9e compagnie. Cette compagnie-là, elle était souvent attaquée par le FLN. Hein. Parce qu'ils savaient. Alors donc la nuit, ben, sans arrêt, ils étaient réveillés. Faut dire aussi que il y a des troufions qui en ont bavé aussi. Hein. Il y en a qui ont été dans des situations où quand vous avez des copains qui sont tués et puis que vous avez un commandement qui vous remonte la pression et tout ça, après on arrive à vous convaincre que si c'est pas vous qui tuez, c'est l'autre qui va vous tuer. Parce que on était en maintien de l'ordre en Algérie, mais ça,
c'était terme officiel,
mais on était dans un moment de guerre. Il fallait obéir. Il était hors de question de se rebeller, il fallait obéir. Quand on est pris comme ça, éloigné de chez soi, en dehors de toute information, en dehors de toute recomposition de groupe, parce qu'il était hors de question d'aller voir quelqu'un, puis de lui dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, on organise quelque chose, comme ça, non, c'était... On était aux ordres. On avait une hiérarchie militaire, avec des déroulements... entre guillemets, dangereux souvent, mais monotone, levé, couché, et puis voilà. Et on était aussi obligé de participer à certaines opérations, puisqu'on faisait partie d'un groupement militaire, quoi. Et nous, je confirme que les gros coups de main qu'il y a eu, c'était les paras qui ont fait les gros coups de main. Eux, les paras ont joué du poignard, de la tuerie et tout ça. Alors on nous disait, faites attention, quand vous vous déplacez, faut être vigilant, faut regarder partout, sur les hauteurs, le bas-côté et tout ça, ne pas vous arrêter. Mais
il y avait une tension quand même.
Il y avait une tension qui était entretenue par le commandement. On n'avait pas le droit de sortir si on n'était pas armé. Si on sortait, il fallait qu'on ait un ordre de mission. On avait des longueurs d'onde avec la radio pour communiquer. C'était structuré. Même si vous alliez à 20 km chercher un camion de paille. Tout ça, c'était très... On était en permanence à attendre un accrochage. Alors même qu'on est militaire de carrière, à un moment donné, je crois qu'on a un petit peu le sentiment de vouloir revenir à la maison. Hein. Mais... Hein bon. Mais... Enfin, j'ai quand même été libéré en fin novembre. J'ai été libéré le 15 décembre. 58, à la gendarmerie de cette ville, en Victor Hugo. Et je suis rentré chez moi. Et j'étais content.
Parce que finalement, t'en tirais quoi
ça... Rien du tout. Non. Et ce qui... les seules manifestations plaisantes, entre guillemets, c'est quand le médecin qui soignait les gens. Parce qu'il y avait énormément de conjonctivites purulentes là-bas qui provoquaient des cécités. Et puis les gens de 60 ans, ils avaient les yeux pleins de mouches avec du pu et tout ça. Et ils tombaient aveugles. Et les soins qu'on leur prodiguait directement, là, je pense qu'il y a eu un côté bénéfique, là. Mais ce qui est... J'ai une anecdote à raconter, c'est que je me suis trouvé donc à Hazi Ben Ali Sherif, dans Kabylie, là. Et quand je suis revenu dans le civil, longtemps après, mon fils a connu une jeune fille au lycée, qui elle était d'origine algérienne, mais qui était française parce que elle est née en France, quoi. Une fille très très joviale et puis pleine de vie. Et j'ai appris à un moment donné que son père avait exactement mon âge et qu'il était né à Hazi Ben Ali Sherif, le bled où moi, j'étais en garnison. Et que le hasard de la vie aurait pu faire que moi ou lui, nous ayons eu la malchance de tirer sur l'un de nous deux. Et donc, ou elle, ou mon gars, sera jamais venu au monde. C'est une chose qui, moi, m'a profondément marqué, à savoir que la guerre, c'est vraiment de la connerie. C'est vraiment un truc pour rien, parce que on doit pouvoir se négocier, on doit pouvoir discuter, et puis accepter que l'autre soit différent. Et à partir du moment où on pourrait éventuellement prendre les armes, c'est à partir du moment où on se sentirait vraiment menacé et attaqué, quoi. Voilà. On a rangé les boîtes.
Ça, c'est des petits...
Comme ça, c'est de l'argent chérifien. C'est marocain, ça.
Voilà, merci beaucoup à Gérard pour ses paroles. J'espère que vous les avez appréciées. Pour retrouver les références des textes et des musiques, ainsi que les émissions sur le web, c'est sur www.bruitdefond.free.fr, www.bruitdefond.free.fr. Recherches et mises en voix Alice Déhay, relations invitées Michael Frébourg, montage et réalisation Thomas Capron. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut! The top of 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 the top of